on nous a jamais apporté la preuve de ces données-là.
Alors, encore une fois, il nous faut faire confiance à la version malaisienne. Intéressons-nous maintenant aux recherches pour retrouver l'épave de l'avion. Elles se sont d'abord concentrées pendant 5 jours en mer de Chine. Une aberration, puisqu'en accréditant la thèse du demi-tour, les autorités malaisiennes reconnaissaient que l'avion ne pouvait s'y trouver. Après avoir perdu beaucoup de temps, les recherches se sont donc déplacées vers la mer d'Andaman, c'est-à-dire au dernier endroit où les radars militaires auraient aperçu une trace de l'avion fantôme.
Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait plus d'informations provenant des radars et on a eu l'idée d'utiliser des signaux échangés avec les satellites de communication de la société Inmarsat.
Attention, nous ouvrons un nouveau chapitre de cette incroyable histoire. Inmarsat est une société anglaise qui possède une flotte de satellites géostationnaires orbitant à 36 000 km au-dessus de la Terre. Toutes les 60 minutes, les satellites d'Inmarsat interrogent les trains, les navires, les avions de leurs clients. Ils vérifient ainsi qu'ils sont toujours dans une zone de couverture et que l'on peut échanger avec eux. L'avion renvoie alors un signal de présence qu'on appelle un ping. Pour le MH370, les pings étaient absents depuis la coupure de tous les systèmes de communication au-dessus de la mer de Chine. Ce qui est étonnant, c'est que ces pings seraient réapparus miraculeusement au moment où l'avion sortait de la couverture radar militaire des Malaisiens. Hasard, chance, quoi qu'il en soit, c'est donc à 2h25 le matin du 8 mars 2014 qu'un satellite d'Inmarsat aurait détecté ce premier ping. Ce qui suppose que tout d'un coup, le système de communication par satellite de l'avion se soit remis à fonctionner.
Bon, alors, c'est le problème de ces données-là en plus. Les données Inmarsat ne sont pas faites pour suivre les avions.
Effectivement, ces données ne fournissent pas la position de l'appareil.
Donc ce qu'on a fait, c'est une exploitation particulière de ces signaux.
Comme nous l'avons vu, normalement, toutes les 60 minutes, le satellite et l'avion communiquent pendant quelques secondes. Cette communication permettant de savoir si l'avion est toujours dans sa zone de couverture. Inmarsat nous dit qu'il y a eu 7 échanges entre le satellite et le MH370. Grâce à des calculs complexes, ces 7 échanges ont permis de dessiner 7 arcs.
Et on sait aussi que la trajectoire de l'avion s'est interrompue à ce qu'on a appelé le 7e arc, le 7e et dernier arc, qui correspond très vraisemblablement à l'arrêt des moteurs parce que l'avion était arrivé à ce moment-là à court de carburant.
Rappelons qu'au départ de Kuala Lumpur, le MH370 avait du kérosène pour 7h30 de vol maximum. Donc le 7e arc va du Kazakhstan jusqu'au sud de l'océan Indien. Une zone immense.
Est-ce qu'on peut déduire de tout ça une trajectoire ? La réponse est non, sans faire des hypothèses complémentaires.
À partir de là, les ingénieurs d'Inmarsat vont se lancer dans des calculs ultra complexes. Pour avancer, ils vont devoir faire face à de nombreuses hypothèses. Par exemple, choisir une trajectoire avec une altitude et une vitesse de croisière qui leur permettent de faire correspondre leurs calculs avec les fameux pings. Guylain Vatrolos remet ses hypothèses en cause.
Donc Inmarsat, en fonction de ça, a déduit une trajectoire. Mais pour déduire une trajectoire, ils ont dû prendre des hypothèses de vitesse, d'altitude. Voilà, et ils ont pris une vitesse et une altitude constante. Quand on voit le trajet erratique de l'avion avant, on a du mal à y croire quand même.
Donc c'est sur la base de ces hypothèses qu'Inmarsat déduit que le MH370 aurait terminé sa course dans le sud de l'océan Indien. C'est le premier ministre malaisien en personne qui annonce cette incroyable nouvelle au monde entier.
Its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth.
C'est-à-dire au milieu de nulle part. À partir de là, pour définir une zone de recherche, les Malaisiens et les Australiens vont se baser uniquement sur les conclusions d'Inmarsat. Alors même qu'Inmarsat reconnaît dans son rapport n'avoir travaillé qu'à partir d'une hypothèse parmi tant d'autres.
Comme cette route n'est pas plus recevable que n'importe quelle autre.
Ce n'est pas une base acceptable pour entamer des recherches et pour même prétendre, au-delà de tout doute raisonnable, que l'avion est là où on dit qu'il est.
Si les Australiens ont fait cette hypothèse, c'est qu'il fallait leur, à tout prix qu'ils trouvent une idée pour limiter la zone de recherche. Mais c'est une hypothèse ad hoc, une hypothèse a priori. C'est comme la personne qui a perdu ses clés la nuit et qui va les chercher sous le lampadaire, non pas parce qu'elle pense qu'elle est sous le lampadaire, mais parce que c'est le seul endroit où elle a des chances de le trouver, parce que c'est éclairé.
La probabilité de retrouver le MH370 était vraiment infime. Un coup de poker pour les Australiens et leurs alliés. En ce qui concerne Inmarsat, certains experts pensent que la société ne dit pas toute la vérité au sujet des signaux et des données qu'elle a recueillis grâce à ses satellites.
Un ancien employé d'Inmarsat m'a dit en même temps que tous les avions pour lesquels Inmarsat travaillait étaient parfaitement localisés à tout moment.
Et donc, pourquoi pas le MH370 ? Nous sommes le 24 mars 2014. L'avion a disparu il y a maintenant 16 jours. Après d'innombrables cafouillages, la Malaisie annonce qu'une nouvelle zone de recherche vient d'être définie pour retrouver l'épave du Boeing 777 dans l'océan Indien. L'enjeu est de taille, non seulement pour comprendre ce qui est arrivé au MH370, mais surtout pour permettre aux familles de faire leur deuil.
Dès qu'on a eu cette piste, finalement, des signaux Inmarsat et du 7e arc, les recherches ont commencé par avion, évidemment.
La zone est en effet à plus de 2000 km des côtes australiennes. Le jour de la disparition, le 8 mars, la mer était déchaînée, avec des creux de 3 à 4 mètres. Alors, si l'avion a tenté un amérissage d'urgence, le choc a obligatoirement été brutal.
L'avion, il se crache, et il se crache bien. Donc il y a des débris.
La preuve, ici nous voyons une tentative d'amérissage d'un vol d'Ethiopian Airlines en 1996. Et la mer était calme. L'accident avait fait 125 victimes sur les 175 personnes qui étaient à bord. La zone à couvrir pour les recherches du MH370 s'étend sur 4000 km². En plus des avions, des satellites français, américains et chinois viennent en renfort stationnés au-dessus de la zone. Rapidement, plusieurs images apparaissent.
Il y a eu des débris. Est-ce que ce sont les débris de l'avion ? C'est pas impossible.
Les navires se rendent donc sur la zone, mais sans succès.
C'est totalement anormal qu'on n'ait pas retrouvé de débris flottants. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'aviation. Et on l'a vu, on peut nous dire c'était la tempête, tout ça. Air Asia qui s'est crashé, je sais plus quoi, 6 mois plus tard, en pleine tempête. On a retrouvé plein de débris, sans problème. Le vol par Air Rio, on a trouvé des débris au bout de 6 jours. Là, on n'a jamais trouvé un débris flottant.
Mais en dehors des débris, ce que l'on cherche surtout, ce sont les boîtes noires. Il y en a deux. La première enregistre les conversations dans le cockpit, et la seconde, l'ensemble des paramètres du vol. Ces boîtes noires sont précieuses, c'est elles qui peuvent nous renseigner sur les conditions de l'accident. Chaque boîte noire est équipée d'une balise, qu'on appelle un pinger. Ce pinger émet des signaux acoustiques qui permettent de repérer la boîte noire. Ils sont émis toutes les secondes sur une fréquence bien précise. La durée de vie de cette balise accrochée à la boîte noire n'est que de 30 jours. Des navires spécialement équipés de moyens d'écoute ultra sophistiqués doivent aider à les retrouver. En théorie, on cherche deux signaux acoustiques, car il y a deux boîtes noires.
On sait qu'un des pingers ne devait pas fonctionner parce qu'il avait dépassé sa date limite d'utilisation et il n'avait pas été réparé en temps utile par la compagnie aérienne.
Manque de chance ou incompétence ? Quoi qu'il en soit, à cause de ce problème de maintenance, il y avait donc deux fois moins de probabilité de retrouver les boîtes noires. Toujours est-il que pour repérer ces pingers, il faut utiliser des détecteurs de signaux acoustiques high-tech. c'est l'Australie et la Chine qui prennent en charge ces recherches. Mais trouver la technologie adéquate et affréter les navires sur zone prend beaucoup de temps.
Si vous arrivez au bout de 3 semaines, il ne vous reste pas longtemps pour éventuellement détecter les pingers.
Et effectivement, quand les navires arrivent sur place, les pingers n'ont plus que 3 jours de durée de vie. Selon Jean-Paul Troadec, qui a dirigé les recherches de l'épave du Rio Paris, la probabilité de repérer ces signaux était plus qu'infime.
Et ça aurait été un miracle, on va plutôt un événement d'une probabilité extrêmement faible, qu'on puisse les détecter à ce moment-là.
Mais certains croient au miracle. La preuve, les Chinois vont annoncer qu'ils ont détecté des signaux acoustiques.
Ils savent que les boîtes noires émettent pendant un mois. Donc le 28e jour, les deux bateaux disent « on a entendu un bruit ». Génial, on a retrouvé les boîtes noires. Il faut savoir qu'il y avait un bateau chinois et un bateau australien. Bateau chinois qui cherchait un bruit, dit « je suis désolé, j'ai pas enregistré le bruit ». Déjà, vous y croyez, le gars il cherche un bruit, il n'enregistre pas. Et le bateau australien, c'est pire encore. Le bateau australien, il met un mois à nous dire « ah ben non, c'était pas la bonne fréquence ». Et c'était un bruit qui venait de notre propre bateau. Un mois pour nous dire ça. On nous prend, enfin moi je suis désolé, mais on nous prend pour des imbéciles.
Les spécialistes savaient que la fréquence sur laquelle on les avait entendus ne pouvait pas être celle d'un pinger. Et néanmoins, les Australiens ont fait des déclarations, on a retrouvé les pingers, etc. C'était impossible.
Donc oui, on nous ment là.
Les pingers se sont tus, mais les boîtes peuvent encore être exploitées pendant plusieurs années. Encore faut-il les retrouver. Seule solution désormais, cartographier mètre par mètre les fonds sous-marins. Autant chercher une pièce de monnaie cachée dans le Stade de France. Pendant 3 longues années, les Australiens vont poursuivre les recherches et même y mettre des moyens considérables. Ils couvriront 120 000 km², dépenseront 130 millions d'euros, sans aucun résultat. Une jeune société américaine, Ocean Infinity, en mal de notoriété, a même proposé aux Malaisiens de faire des recherches qui ne seraient financées que si elles aboutissaient.
We can roughly cover 1200 square kilometers a day.
Encore une fois, sans résultat.
Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Ça veut dire juste une chose. C'est que c'était pas la bonne zone de crash. C'est tout ce que ça veut dire.
On a découvert un certain nombre d'épaves de voiliers qui avaient coulé au cours des siècles. Peut-être certains avec un intérêt archéologique. Est-ce qu'il y a eu des découvertes en termes géologiques ou bien en termes d'exploitation minière? Ça, je ne le sais pas.
Mais effectivement, ce n'est pas perdu pour tout le monde. C'est très utile de mieux connaître le sous-sol sous-marin, surtout à l'époque enfin, où on fait de plus en plus d'explorations pétrolières offshore et choses comme ça.
Des recherches pour trouver du pétrole, une hypothèse plausible. Cela expliquerait-il le choix de cette zone de recherche? Rappelons qu'elle avait été définie en faisant une confiance aveugle aux données d'Inmarsat.
Donc encore une fois, je dis, bah, il y a peut-être un problème avec les données quand même.
Si l'on s'appuie sur les conclusions du rapport officiel, le vol MH370 de la Malaysia Airlines se serait abîmé dans le sud de l'océan Indien, au milieu de nulle part. Le 30 juillet 2015, soit plus de 500 jours après la disparition de l'avion, une découverte relance enfin l'espoir de localiser l'épave du MH370. À 8000 km du lieu supposé du crash, un débris est retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion. Il s'agit d'un flaperon, c'est-à-dire d'une partie de l'aile droite du Boeing. La pièce mesure 2,30 m par 1,25 m. Mais comment se fait-il que ce débris ait voyagé sur une telle distance?
Seuls les morceaux les plus lourds vont couler